Question d'islam par Ghalib Bounchir. Aujourd'hui, nous parlons des califes maudits. En quoi consiste cette malédiction? Ce sera avec le professeur des universités, Hala Wardi, qui est membre associé au laboratoire d'études sur les monothéismes au CNRS. Hala Wardi est auteur de nombreux ouvrages, dont particulièrement « Les derniers jours de Mohammed » paru chez Albin Michel. C'est un ouvrage événement qui a suscité beaucoup de débats et elle revient avec un autre livre intitulé cette fois-ci La déchirure à propos du tout premier califat, les quatre premiers califes, que la tradition a plutôt encensé puisque ça a été présenté, ils étaient présentés comme des califes bien guidés, ceux de la rectitude spirituelle, orthodoxe. Et là, il y a une autre présentation, celle de la chercheure ou la chercheuse, je ne sais plus comment féminiser ces titres. Et Hala Wardi donc viendra nous parler de tout cela. Une toute première question, comment se fait-il que les monothéismes soient au pluriel dans ce laboratoire d'études au CNRS?
C'est une très bonne question, Monsieur Bounchir, parce que le monothéisme est un. Donc, il n'y a pas de différents monothéismes. Mais je pense que le pluriel désigne plutôt les expressions culturelles du monothéisme, qui est vraiment selon les époques, selon aussi les espaces géographiques, a eu plusieurs expressions très différentes, avec toujours, évidemment, une continuité que, je pense, tous les chercheurs qui s'intéressent aux religions monothéistes ne manquent jamais de relever, évidemment.
Oui. On consacrera peut-être un jour une émission sur cette considération plurielle ou au singulier du monothéisme. Depuis la religion juive, jusqu'au Bahaï. Revenons maintenant à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce sont les califes maudits. Pourquoi vous parlez de malédiction concernant le tout premier califat?
Ah, c'est révéler tout le livre alors, et je vais essayer de parler de ce livre sans trop le déflorer, pour laisser au lecteur l'occasion de le découvrir par eux-mêmes. En fait, il est question d'une malédiction formulée par la fille du prophète,
Fatima,
qui, à l'issue de la mort de son père, a été plutôt malmenée par les compagnons du prophète, notamment Abu Bakr et Omar, qui seront successivement le premier et le second calife. Cette malédiction ne concerne pas seulement une question de pouvoir politique. On sait que lorsque Abu Bakr a été élu, entre guillemets, calife, successeur du prophète, Fatima ainsi que nombreux membres de la famille du prophète n'avaient pas approuvé cette nomination. Et ils se sont barricadés chez elle d'ailleurs, et il y a eu une attaque de sa maison.
On avait même menacé d'incendier la dite maison.
Absolument, absolument. On ne sait pas d'ailleurs si l'incendie a eu lieu ou pas. Parce que si on prend les révélations ou les confessions faites par Abu Bakr pendant son agonie, il aurait dit « Je n'aurais jamais dû brûler la maison de Fatima ». Donc peut-être que la maison a été réellement incendiée. La malédiction, en fait, ne concerne pas cet épisode-là de protestation politique contre la légitimité d'Abu Bakr. C'est suite à une affaire financière, mais qui a, à mon avis, une dimension symbolique très forte, c'est quand elle a été déshéritée par Abu Bakr et privée de la partie de l'héritage qui était au cœur du litige et ce qu'on appelle l'oasis de Fadak. Et le nouveau calife aurait dit à Fatima.
C'est une petite palmeraie qui se trouve du côté de
Khaybar,
dans la péninsule arabique.
Oui, Elle est plus ou moins à 150 km de Médine. C'est une oasis très prospère et dont elle profitait d'ailleurs du vivant même de son père. Donc le calife lui a dit, tu n'as pas le droit d'hériter de ton père parce que ton père est un prophète et il a dit, les prophètes ne laissent pas d'héritage, tout ce qu'ils laissent, c'est l'aumône.
Donc, et l'enseignement spirituel.
Et l'enseignement spirituel. Il y a plusieurs variantes dans ce hadith, mais l'idée principale est là, c'est que Fatima est privée de son héritage. Et c'est à ce moment-là qu'elle va, bien sûr avec ce sentiment de profonde injustice, elle va exprimer sa colère publiquement à la mosquée et elle va s'adresser à Abu Bakr en le maudissant et en maudissant tous les compagnons présents ce jour-là à la mosquée. Et quand j'ai lu cette scène, ça m'a tout de suite, puisque moi je suis une littéraire de formation, ça m'a rappelé la scène des Rois maudits de Maurice Druand, quand Jacques de Molay a lancé cette malédiction à la face de Philippe le Bel. Évidemment, il ne faut pas que le lecteur soit induit en erreur. La malédiction n'est pas pour moi une explication de la destinée tragique que les premiers califes de l'islam vont connaître. Pour moi, c'est une part d'énigme qui est au cœur de l'histoire de l'islam. C'est-à-dire que une femme, la fille du prophète en l'occurrence, que je compare d'ailleurs à Antigone, qui se dresse contre l'autorité du successeur de son père. Donc Fatima, c'est un peu la part d'ombre dans l'histoire de l'islam. La malédiction qu'elle a lancée, c'est cette énigme qui est au cœur de l'histoire de l'islam et qui n'a pas été encore révélée. Et la plus grande difficulté que j'ai éprouvée, c'est comment révéler les choses en préservant l'énigme. C'est l'énigme de l'histoire. Pour moi, la malédiction, ce n'est pas une causalité. S'ils ont connu cette fin tragique, pratiquement tous les califes, les quatre califes bien guidés, hormis Abu Bakr, qui serait mort d'une mort naturelle, mais son règne a été relativement bref.
Au cours de deux années, de 632 à 634.
Voilà, et son règne d'ailleurs était très agité, puisque marqué par les fameuses guerres d'apostasie, entre guillemets. Donc il n'a pas réellement exercé un pouvoir dans la cité. C'est plutôt Omar plus tard qui va organiser cet embryon d'État qui sera l'État islamique. Donc, pour moi...
Alors, on dit que l'État est venu bien plus tard, après les dynasties omeyyades, voire ouais, abbassides, mais vous avez à juste raison parlé d'embryon d'organisation
embryon,
de la cité.
En tout cas, l'expansion des conquêtes, etc. Son règne a été long, plutôt stable, puisque toute l'Arabie a été pacifiée, tout le monde s'est rangé à l'islam, puisqu'Abou Bakr, lui, il a été confronté dès le lendemain de son accès au trône califal, à un vaste mouvement d'opposition, aussi bien de la famille du prophète, de la part aussi des gens de la Mecque. Toutes les tribus arabes se sont insurgées parce que personne ne reconnaissait sa légitimité.
Hala Wardi, avant tout, vous avez travaillé sur un matériau qui est la tradition. Toutes vos sources se trouvent dans la tradition, dans sa version standard, et vous n'avez fait que recouper les différents récits à propos de cette période charnière après la mort du prophète et l'installation du tout premier califat, qui n'a aucune valeur sacrale puisque ce n'est pas dans le Coran, c'est une construction humaine et c'est venu avec l'élection. En réalité, on a porté allégeance à Abou Bakr, francisé en Abou Bakr. Comment ces choses-là se sont-elles passées?
C'est un récit passionnant, en fait, la mise en place de cette institution politique inédite dans l'histoire.
On est en 632, le 8 juin, entre le 8 et le 10 juin.
Oui, la date, on la saura jamais, probablement. Mais les compagnons du prophète se sont trouvés dans une situation de vacance du pouvoir et il fallait absolument désigner un chef. Et les premiers à avoir pris cette initiative, c'était les Ansar de Médine qui sont chez eux, en fait.
Le mot Ansar renvoie à la notion d'être auxiliaire.
Auxiliaire, voilà ceux qui habitaient Médine, anciennement appelée Yathrib, et qui ont offert l'asile politique au prophète et à ses compagnons. Donc eux, ils ont...
Qui étaient chassés de la Mecque ou persécutés en
Persécutés, en tout cas, il a fui la Mecque parce qu'il y avait une menace sérieuse sur sa vie. D'ailleurs, je rappelle dans une petite parenthèse dans le livre les conditions dans lesquelles cet accord politique a été noué avec les tribus des Haus et des Khazraj qui formeront ensuite ce qu'on appelle les Ansar de Médine. Donc les Ansar ont pris l'initiative. Déjà, apparemment, les pourparlers ont commencé... pendant l'agonie du prophète, on a tout de suite compris que ses jours étaient comptés. Donc, ils se sont réunis chez eux, dans leur camp, dans la Saqif des Banu Sa'ida, la tonnelle au vent. Il n'y a pas de
pergola,
voilà,
très haut.
C'est dans un verger. Et les Haus et Khazraj, qui sont d'ailleurs un peu les frères ennemis, parce que ce sont des tribus rivales, bien qu'ils aient eu un descendant commun, un ascendant, pardon.
Une aïeule commune.
Voilà, une aïeule, c'est Qaïla. Et donc, il y a eu toujours des guerres civiles entre les deux camps. Donc, ils se réunissent et ils disent, voilà, on va désigner un chef. Les émigrants n'étaient pas du tout inclus dans cette réunion. Mais quand ils ont eu vent de la tenue de cette réunion, les émigrants, à leur tête Abou Bakr et Omar, se sont précipités. Ils se sont imposés carrément dans cette réunion. Et là, les négociations ont commencé. Je ne vais pas dire comment les choses ont évolué pendant cette réunion qui a tourné rapidement au pugilat. Mais il y avait en fait deux points de vue. Le point de vue des Ansar, c'est que chaque camp doit avoir son propre émir, son propre chef. Les émigrants ont un chef et les Ansar doivent avoir le leur. Mais les émigrants n'étaient pas du tout de cet avis. Et Abou Bakr leur disait pendant toute la réunion, c'est l'idée qu'il martelait, nous sommes les émirs, vous êtes les vizirs.
Oui. Parce que la diarchie ou une direction bicéphale avec deux chefs n'allait pas se faire dans la concorde. Forcément, il va y avoir le duumvirat ne fonctionnerait pas.
Et donc, Abou Bakr et tout le camp des immigrants qu'il représentait avaient le sentiment que, malgré les services que les Ansar ont rendus à l'islam, ils ont quand même une supériorité religieuse qui tient en fait à leur ancienneté, ce qu'on appelle la sabiqa. Donc,
aristocratie par l'ancienneté d'entrée dans la religion.
Et d'ailleurs, les émigrants sont conscients que eux, ils avaient fait beaucoup de sacrifices avec le prophète, puisqu'ils l'ont suivi au moment où il était persécuté. Ils ont supporté avec lui ce calvaire de la persécution et de l'émigration. Et ils l'ont suivi spontanément, sans arrière-pensée, alors que la conversion des Haus et des Khazraj était une conversion plutôt opportuniste. Et j'explique pourquoi. D'ailleurs, c'est pour arranger leurs affaires qu'ils ont accepté de faire venir le prophète chez eux à Yathrib. Surtout qu'en fait, ils ne le considéraient pas tout à fait comme un étranger, puisque le prophète lui-même a, de par son arrière-grand-mère, Salma bint Najjar, lui-même, il est un membre de la tribu des Khazraj quelque part. Donc voilà les grandes lignes de la réunion, les points de vue, les deux camps, chacun quelle était son argumentation et pourquoi à la fin l'accord n'a pas été possible. À un moment donné, il y a une rupture dans les négociations. C'est à ce moment-là que la violence commence à s'installer.
Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je comprends que vous ne le disiez pas tout de suite et nous renvoyons les auditeurs à la lecture de l'ouvrage. Mais c'est l'impact de la parole chez les orateurs et les poètes des uns et des autres pour retourner, si je puis dire, l'opinion des personnes présentes.
C'est incroyable d'ailleurs quand je relis les différentes relations, en fait les comptes rendus de cette réunion de la Sarkhifa, j'étais assez
épatée. Rappelons encore une fois que Sarkhifa
c'est tonnel. Donc j'étais assez ahurie et vraiment impressionnée par la rhétorique extrêmement sophistiquée. Il y a des poètes qui prenaient la parole comme des intermèdes, en fait, pendant les négociations, qui prenaient la parole, en général, d'ailleurs, pour que chaque camp s'auto-glorifie, pour montrer ses mérites, etc. Mais tout s'est passé, en fait, dans le langage. Ce n'est qu'à la fin, toute fin de la réunion, que c'est devenu assez brutal. Mais au début, c'était de la subtilité rhétorique. Et d'ailleurs, les Arabes, c'est connu jusqu'à maintenant, sont extrêmement sensibles au pouvoir de l'éloquence verbale. Et dans chaque camp, il y a ce qu'on appelle al-khatib ou al-mutakallam, c'est-à-dire le porte-parole, ce qu'on appellerait aujourd'hui un porte-parole. Et d'ailleurs, très souvent accompagné de poètes. Et ces gens-là avaient une mission. C'était par la force de leur parole donner ou telle orientation à la négociation politique. Et même plus tard, quand les négociations s'étaient terminées, ce sont les vers récités pendant cette réunion qui ont un peu joué le rôle de compte-rendu de ce qui a été dit. Et parce que les gens reprennent par cœur cette poésie. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, que j'ai choisi comme entrée en matière dans le récit la figure emblématique du poète Abu Dhuhayb al-Hudhali, témoin oculaire de cette réunion.
Et de toutes les scènes, j'allais dire, dans tous les sens du terme. En effet, vous avez raison, Alaoudi, d'évoquer l'impact à la fois psychologique, voire hypnotisant de la parole. Les Arabes sont habités par le verbe, ils sont des funambules de la langue, mais surtout des orateurs fougueux, passionnés, convaincants, et la rhétorique dans ces négociations a beaucoup d'importance.
Ça m'a posé un gros problème de traduction, d'ailleurs, Monsieur Benchir, hein, parce que il y a un moment donné, quand Hubab ibn Mundhir dit « Ana Udhayquha al-Murajjab wa Udhayluha al-Muhakkak », alors là, avis aux amateurs, si vous pouvez m'aider à traduire cette tournure.
Oui, en réalité, il y a une allégorie, je ne pensais pas qu'on en arrive à ça, mais c'est une allégorie parlant de ce pieu sur lequel le chameau vient
se gratter
quand il y a une démangeaison, et aussi, en réalité, ça renvoie au fait que c'est un expert.
Voilà.
Et que c'est un incontournable.
Et un stratège, d'ailleurs, dont les compétences étaient reconnues par le prophète lui-même.
Déjà de son vivant. Mmh. Ce qui paraît important et intéressant, c'est que du côté des émigrants, donc des Quraïchites, de la tribu de la Mecque, c'est Abou Bakr qui a pris la parole, à la fois en fin diplomate, mais aussi en orateur convaincant, mais il ne plaidait pas pour lui.
Ah, ça, c'est une grande question.
Ou c'est une énigme.
Ah, ça, c'est une énigme, presque autant que la malédiction de Fatima. Abou Bakr voulait-il ou ne voulait-il pas être calife? Ça, je ne saurais pas répondre. Mais en tout cas, sa personnalité est un mélange extraordinaire de contradictions. C'est à la fois un homme très doux, très serein, mais en même temps capable de grands moments de fureur. C'est un homme à la fois humble et ambitieux. Est-ce que réellement il voulait être calife? Est-ce que il a été poussé par Omar? Parce que quand même, c'est un homme très respecté, même par les Ansar. D'ailleurs, ils le tiennent
en grande estime.
Les Ansar, d'ailleurs, pendant les réunions, ne haussent le ton que lorsque Omar commence à parler. Avec Abou Bakr, ils étaient un peu gênés parce que l'homme jouissait quand même d'une...
Et lui-même parle d'une voix plutôt monocorde et douce.
Douce, et il n'était pas là pour se bagarrer avec les Ansar. D'ailleurs, quand ils arrivent, lui et Omar, avec un groupe d'émigrants, Omar, spontanément, a voulu voulu prendre la parole en premier, mais lui, il lui a dit « tais-toi », parce qu'il redoutait le tempérament très fougueux de Omar.
Et impétueux.
Voilà, impétueux. Et donc, il lui a dit « laisse-moi parler d'abord », parce qu'il voulait absolument avoir un contrôle sur la situation. Et après, ce qui est intriguant pendant cette réunion, et même plus tard, 2 ans plus tard, quand il sera, disons, à l'article de la mort, Abu Bakr exprimera des regrets quant à cette acceptation du poste de calife. Et ce qui m'a personnellement, peut-être les spécialistes le savent, mais moi je l'ai découvert au fil de ma lecture, c'est que Abu Bakr Siddiq a présenté sa démission à plusieurs reprises en disant « libérez-moi de votre allégeance, trouvez-vous quelqu'un d'autre », parce qu'il a compris tout de suite que c'était un véritable fardeau.
Oui, et on lui a toujours rétorqué « nous ne te limogerons pas et nous n'accepterons pas non plus ta démission, nous ne te démissionnerons pas ».
La nuqiluka wa la nastaqiluka.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Hala Wardi. Nous parlons des califes maudits. En réalité, nous parlons de cette transition après la mort du prophète et le tout premier califat. Nous découvrons que c'est une construction humaine, que ça n'a aucune valeur sacrale, que ce n'est pas fondé coraniquement parlant dans la révélation. Et ce sont tous les soubresauts qui ont suivi cette... Alors le mot élection peut paraître anachronique pour l'époque, mais c'était une élection. En tout cas, on a porté allégeance. On va voir comment tout cela a pu se faire. Hala Wardi, la tradition ou les sources que vous avez consultées disent, d'une manière générale, la tradition standard, encore une fois, et puis toutes ces sources, que Abou Bakr, au moment de la mort du prophète, n'était même pas à Médine, était un peu dans sa résidence secondaire, à Sonh. Mm. Et alors, il s'y préparait, il avait une milice, qu'est-ce que c'est que... Moi, je m'adresse à la dame de lettres qui s'est livrée à des investigations d'ordre historiographique.
Oui, c'est vrai, c'est une information qui n'est pas du tout marginale dans les sources de la tradition, puisqu'on la trouve à chaque fois dans les relations concernant soit la mort du prophète, soit les relations concernant les négociations de la tonnelle des Banu Saïd, ce fameux conclave. Abu Bakr ne se trouvait pas à Médine, enfin il n'était pas loin non plus, hein. c'est une banlieue à quelques, disons...
On est dans les faubourgs.
Oui, les faubourgs de Médine. Il s'est absenté curieusement le jour de la mort du prophète. Alors, selon Tabari, il est arrivé 3 jours après la mort du prophète, mais ça, c'est une question vraiment très délicate parce qu'elle est difficile à trancher.
Tabari étant un chroniqueur exégète, voilà, en 923.
L'un des plus célèbres de chroniqueurs, il dit en fait que Abu Bakr avait dans cette résidence secondaire à Sanaa une sorte de coffre où il mettait son argent. Et cette information, je crois, Tabari et d'autres d'ailleurs, ne la mentionnent pas gratuitement. Parce que on pourrait l'expliquer à l'aune des événements ultérieure, puisque quand les émigrants Abou Bakr et Omar notamment quittent la tonnelle des Banu Saïda, ils se dirigent directement vers la mosquée pour ce qu'on appelle la cérémonie d'allégeance publique, al-bay' al-'am. Et là, quand les gens reviennent à Médine, parce que la tonnelle des Banu Saïda se trouve extramuros, hein, c'est pas l'intérieur de Médine.
C'est un verger.
C'est un verger, voilà. J'ai trouvé d'ailleurs une photo dans un livre des années 30 de cette sarifa maintenant détruite. Quand ils arrivent dans les alentours de la mosquée, il y a une milice qui s'est déployée. Ce sont la tribu de Banu Aslam, qui ne sont pas connus pour leur pacifisme, hein, parce que c'était plutôt des gens qui avaient la réputation d'être plutôt des voleurs de pèlerins. Ils se sont déployés dans les rues de Médine et Tabari dit que lorsque Omar les a vus, il a dit « la victoire est à présent à nous ».
Parce que cette milice allait assurer non seulement l'ordre, mais mettre au pas les récalcitrants, et les gens sont venus petit à petit à la mosquée porter allégeance et reconnaître Abou Bakr, Abou Bakr comme leur émir. Absolument. L'appellation calife viendra après, mais là, ouais, c'était l'émir.
Le mot calife, d'ailleurs, vous faites bien de le rappeler, le mot calife n'a été pendant tous les PV, entre guillemets, de la Réunion, à aucun moment le mot calife n'a été prononcé par les compagnons, c'est plutôt le mot imam, et qui désigne, et d'ailleurs c'est un terme générique, qui désigne tous les chefs. D'ailleurs, dans le Coran, il y a un verset qui parle des imams de la mécréance, Aimmat al-Kufr.
Ceux qui sont à la tête.
Voilà, Aimmat, voilà, ceux qui sont à la tête, les chefs, dont, quelle que soit d'ailleurs la connotation péjorative.
Les en réalité.
Voilà, c'est le doute, absolument. Et donc, du coup, la présence de cette milice a, je crois, été un élément déterminant, ce qui nous autoriserait, et j'utilise vraiment avec beaucoup, beaucoup de précaution le terme, ce qui nous autoriserait à parler d'un coup d'État. Surtout que les événements ont eu lieu pendant que l'on s'occupait de la toilette mortuaire du prophète.
Et ce qui est étonnant toujours, c'est que le fossoyeur, plus ou moins attitré ou reconnu, n'était pas présent pour inhumer la dépouille mortelle du prophète, mais il était aussi dans ces fameux pourparlers sous la tonnelle ou des Banu Saïd.
Ouais, c'est Abu Ubaida ibn al-Jarrah qui était en fait avec Omar et Abu Bakr le troisième homme qui avait conduit les pourparlers avec les Ansar de Médine, et cet homme qui était le fossoyeur attitré des émigrants, parce qu'il y avait des coutumes d'inhumation différentes selon qu'on était de la Mecque ou de Médine. Et il était censé être dans les parages, à côté de la chambre mortuaire, pour creuser la tombe du prophète. Et quand on a regardé, on l'a pas trouvé, parce que il n'était pas là, il était avec ses amis en train de négocier. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a fait appel à un autre fossoyeur qui va enterrer le prophète selon la coutume médinoise.
Et de nuit.
Et enterrement nocturne, j'ai consacré quelques pages à ce sujet-là dans mon précédent livre sur les derniers jours de Mohammed et à ses obsèques qui d'ailleurs contiennent des zones d'ombre.
Alors, continuons dans le récit. L'allégeance est publique à la mosquée de Médine et... Mais ce n'est pas la totalité, notamment des notables médinois, de ces deux fameuses tribus, les Haous et Khazraj, les auxiliaires, comme on les appelle, de la cause islamique de l'époque. Le début du règne, lorsqu'il était aux affaires à Abou Bakr, était un début très chahuté.
Oui, parce que très contesté. Contesté quasiment par tout le monde. Il y a en fait trois strates de contestation. D'abord, il y a les gens qui étaient à Médine et ceux qui étaient à Médine avec lui, qui vivaient avec lui. Il y a d'abord les Ansar, ceux qui n'ont jamais accepté sa nomination, notamment à leur tête Saad ibn Ubaida. Il y a toujours à Médine un autre camp qui n'a pas accepté. La famille du prophète, parce que d'abord, sur le plan de la forme. Il contestait le fait que aucun membre de la famille du prophète n'a été associé au pourparlers et que personne ne leur a dit « venez, on doit discuter, on doit se mettre d'accord sur le nom du successeur du prophète ». Ils ont été écartés volontairement. Ensuite, deuxième strate d'opposants politiques, les gens de la Mecque, les Quraychites, parce qu'à Quraysh, ce n'est pas une tribu homogène. C'est une tribu où il y a plusieurs clans. Et parmi ces clans, il y a ce qu'on appelle habituellement les aristocrates.
Oui, ou les ploutocrates.
Voilà, ceux qui avaient pas seulement l'argent, mais aussi un pouvoir symbolique, puisqu'ils avaient déjà avant l'islam la charge de gérer le sanctuaire de la Kaaba, et ça depuis du vivant même de Qusay ibn Kilab, l'ancêtre du prophète. Et ces gens-là, à leur tête Abu Sofiane, qui est le père du futur fondateur de l'Empire Omeyyade, Muawiya, n'a pas accepté la nomination d'Abu Bakr parce qu'il le méprisait. Il trouve que le pouvoir ne doit pas quitter le clan auquel il appartient, le clan des Abd Manef. Abd Manef, c'est l'ancêtre commun aux Omeyyades et aux Hachémites. En gros, hein, mais il y a à la fin du livre, je rassure les auditeurs, à la fin du livre, il y a un arbre qui explique tous ces liens. Moi-même, honnêtement, j'ai eu du mal au début à me familiariser
et
avec...
Et vous y êtes habitué depuis lors.
Oui, oui, non sans difficulté d'ailleurs. Hein. Donc du coup, c'est mes quoi, aristocrates, ne voulaient pas d'Abou Bakr parce qu'il appartient à un clan mineur. Après, il y a un autre niveau de contestation.
C'est le troisième niveau.
C'est toute l'Arabie. Toute l'Arabie. Toutes les tribus arabes, hormis la tribu de Thaqif à Taif, toutes les autres tribus n'ont pas voulu d'Abou Bakr en disant nous, on a fait allégeance à Mohammed, maintenant qu'il est mort, nous revenons à notre souveraineté. Et ça me permet juste d'ouvrir une parenthèse pour dire que on ne peut pas comprendre l'émergence de cette institution ad hoc, en fait, parce qu'elle a été inventée.
L'institution califale.
L'institution califale a été inventée, elle a été créée dans l'urgence, dans l'improvisation, n'a pas pu s'installer facilement en Arabie, pas seulement parce que le personnage d'Abou Bakr était contesté. Au contraire, lui, de tous les compagnons du prophète, peut-être c'est celui qui pouvait créer le plus de consensus, étant donné sa personnalité très conciliante. Mais c'est parce qu'en fait, le contexte de l'Arabie à l'époque, et peut-être aussi encore de nos jours, ne permet pas l'établissement d'un État central. Il y a beaucoup de tribus et chaque tribu était très jalouse de sa souveraineté. Et donc, jusqu'à maintenant, d'ailleurs, cet éparpillement tribal, d'ailleurs, je le rappelle dans le livre, même les Omeyyades n'ont pu installer leur empire qu'à Damas et même les Abbasides n'ont pu installer leur empire qu'à Bagdad.
Qu'ils ont dû construire... Ex nihilo.
Ex nihilo, et pourtant ils sont tous de la Mecque.
Alaoudi, je reviens au premier niveau de contestation. La famille du prophète demandait, voire exigeait, que le pouvoir temporel, puisque, me semble-t-il, mais je le dis sous votre contrôle et je vous pose la question, que le souffle de la prophétie s'étant arrêté, c'est éteint, il reste le commandement temporel. Et donc, pour eux, gouverner la communauté, présider à sa destinée, devait leur revenir presque comme une charge dynastique, mais pas pour perpétuer l'aspect proprement spirituel et prophétique. Parce qu'ils savent que c'est arrêter avec la mort du prophète.
Oui, mais quand même, ils se considèrent comme dépositaires de ce qu'on appelle la sunna, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, disons, les continuateurs de la mission prophétique, mais les dépositaires comme les exécuteurs testamentaires de ce que le prophète a fait, puisqu'ils sont de sa lignée. Donc, forcément, la légitimité leur revient. Mais, évidemment, ce point de vue va être contesté par les compagnons eux-mêmes. Parce qu'ils disent que ce sont deux choses complètement différentes. Le lien familial ne donne aucune légitimité, puisque de toute façon, c'est la choura, c'est l'accord, le consensus de la communauté qui doit présider à la nomination du calife. Mais tout cela était extrêmement flou, parce que, et ça aussi c'est un élément que j'avance avec beaucoup de précaution, peut-être que le principal candidat à la succession du prophète dans le clan familial, Ali, n'était pas non plus très emballé à l'idée de devenir chef. D'ailleurs, il a eu une contestation relativement molle devant l'élection d'Abou Bakr, et il est allé, après la mort de sa femme, faire allégeance au nouveau calife. Il est entré très rapidement dans les rangs. C'est en fait la seule personne qui avait vraiment tenu tête jusqu'à sa mort, assez rapide d'ailleurs après celle de son père, c'est Fatima. C'est pour ça que je l'ai prise un peu comme le personnage nodal de cette tragédie du pouvoir politique naissant dans l'histoire de l'islam.
Il y aura sûrement beaucoup de choses à dire là-dessus. Passons donc dans le récit à cette tragédie. Elle se voit écartée à la fois des pourparlers, et cas aggravant, elle devait recevoir des subsides de cette fameuse petite palmeraie ou de cette oasis, et finalement, Abou Bakr, le calife en titre maintenant, la déshérite sous le prétexte que les prophètes ne laissent pas un héritage d'ordre matériel. Et donc, ça devient plutôt une affaire de trésor public.
Oui, c'est une nationalisation des biens du prophète. Alors, bien sûr, le terme est anachronique, mais je pense que les auditeurs ont fait eux-mêmes la correspondance. Cette question de la spoliation ou spoliation, c'est peut-être qu'on contient un jugement de valeur. Ce n'est pas un procès que je fais à Abou Bakr. De toute façon, il y a prescription maintenant, 14 siècles plus tard. C'est le problème de Fadak est un problème.
Fadak étant l'appellation
de
l'oasis.
Cette oasis. Il attire l'attention sur deux problèmes majeurs. D'abord, le problème de l'héritage en tant que tel. Vous savez que c'est une question qui revient un peu sur le devant de la scène maintenant, avec ce projet de loi de l'égalité successorale en Tunisie. Ce qui est intéressant dans le...
Le débat est ailleurs en contexte islamique, mais c'est la Tunisie qui le porte et le met en avant.
Oui, parce qu'il y a un projet de loi bien concret qui va être bientôt débattu à la Chambre des députés. Et comme vous l'avez rappelé à juste titre, Abou Bakr, pour expliquer à Fatima qu'en fait il n'est pas en train de lui faire subir une injustice, mais qu'il ne fait que se conformer à la parole de son père, elle lui oppose les versets du Coran, qui complètement démente ce que Abou Bakr était en train de lui dire. Les prophètes laissent un héritage. Et chaque fille doit hériter de son père. Donc, pour elle, c'est une aberration totale. Et donc, cette question, à mon avis, met tout de suite en avant cette concurrence, presque, cette rivalité qu'il y a entre le corpus des hadiths et le texte coranique. Très souvent, on présente le hadith comme une sorte de prolongement du Coran. Tout ce que le Coran ne dit pas, on le trouve dans le hadith. Et là, on se trouve, et il y a beaucoup de cas similaires, de positions franches entre les deux corpus.
Et le primat doit être à la révélation, en principe.
Théoriquement, mais on n'empêche que Abou Bakr a préféré se ranger du côté de Hadith en négligeant les versets coraniques, d'ailleurs qu'elle énumère dans son fameux prêche de Fadak, al-Khutbah al-Fadakiyah à la mosquée que j'ai évoqué tout à l'heure.
On va y revenir.
Le deuxième point, et ça c'est très important pour moi, c'est que l'élément féminin a été trop longtemps occulté dans cette histoire de l'islam des origines. L'épopée de la naissance de l'islam a été toujours présentée comme à 100% masculine, alors que pour moi, et quand je regarde de près cette genèse de l'islam, ce sont les femmes en fait qui ont porté l'islam, d'abord avec Khadija, la première épouse du prophète, et ensuite avec la fille du prophète. Je rappelle simplement une anecdote, mais lourde de sens. Quand le prophète était à l'agonie, il a chuchoté à l'oreille de sa fille deux secrets. Donc elle est un peu la dépositaire du secret de la prophétie. Et ensuite, on oublie souvent que les quatre premiers califes orthodoxes, c'est-à-dire Abou Bakr, Omar, Othman et Ali, a priori n'appartiennent pas à la même famille, mais ils sont tous liés au prophète par les femmes. Les deux premiers...
Ali étant son cousin, donc le dernier.
Oui, mais il n'a pas eu le pouvoir en tant que cousin, parce qu'il y a d'autres cousins du prophète, il n'est pas le seul cousin. Mais il a eu le pouvoir
en
tant que gendre du prophète. Je rappelle aux auditeurs qui ne sont pas familiarisés par toute cette histoire, c'est que Abou Bakr et Omar ont acquis leur place privilégiée dans le cercle intime du prophète grâce à leurs filles respectives, Aïcha et Hafsa, qui étaient les épouses du prophète. Et ensuite, le troisième et le quatrième calife, ce sont les gendres du prophète. Donc, ils ont eu, la transmission, en fait, passe par le média féminin. Et il m'a semblé très important, à travers ce motif, j'appelle ça un motif littéraire, c'est presque un artifice littéraire, ce n'est pas un événement. La malédiction ne peut pas être considérée comme un événement politique. Cette malédiction, pour moi, portée par une femme, montre ou restitue le rôle primordial que les femmes ont joué dans l'instauration de ce premier islam.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons des califes maudits avec Hala Waldi, professeur des universités, membre associé au laboratoire d'études sur les monothéismes au CNRS. Et nous poursuivons cet entretien à propos de la malédiction de la proférée par la fille du prophète Fatima à l'encontre du calife, le tout premier calife Abou Bakr. Elle lui dit, elle le met devant ses contradictions, et toi, quand tu meurs, qui héritera de toi ? Donc lui dit assurément, parle de ses enfants. Il lui dit alors, je suis la fille du prophète, et pourquoi est-ce que tu me déshérites ? Et c'est là où il entre dans sa logique de considérer le prophète comme quelqu'un qui ne laisse pas d'héritage d'ordre matériel. Et là, j'aurais une question pour vous, Alaouardi. On a toujours présenté le prophète comme un homme pauvre qui n'a pas laissé de bien, puisque quand il est mort, sa cote de maille était déjà engagée. Mmh. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire d'une petite oasis ou d'une palmeraie qui lui revenait et dont sa fille ou sa maisonnée en profitait?
Alors justement, cette question de la fortune du prophète est une question difficile à trancher, parce que on ne présente pas toujours le prophète comme un homme pauvre. Au contraire, quand vous prenez, à titre d'exemple, la Sira d'Ibn Hisham, c'est-à-dire la biographie du prophète, il y a tout un chapitre qui énumère les biens que possède le prophète. Et d'ailleurs, la Fadak était une partie des biens qu'il a laissés. Mais simplement, Fatima était très attachée à ce domaine parce qu'elle disait qu'en fait, de son vivant, son père lui a cédé. D'ailleurs, elle donne, pour expliquer cela, pour justifier cela, un verset du Coran, etc. Donc, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Et la fortune du prophète, bien qu'on trouve justement cette information assez étrange, comme quoi il serait mort endetté. Il y a vraiment de quoi douter de cette information, surtout qu'elle contredit de manière assez flagrante plusieurs textes de la tradition qui font l'inventaire des biens du prophète. Ça va jusqu'à l'inventaire du mobilier, hein. Je parle pas du bétail ou des terres. Il y a même le nombre de sabres qu'il possédait, etc., etc. Donc c'est pas la pauvreté du prophète n'est pas vraiment avéré, parce que, pour une raison de bon sens, de logique, si le prophète était pauvre, je pense qu'Abou Bakr ne se serait pas privé de dire à Fatima « mais ton père n'a rien laissé parce qu'il est mort endetté ». Or, il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit que tout ce qu'il a laissé, donc il reconnaît qu'il a des biens, vont aller à Beit Mel El Muslimin, c'est-à-dire à la caisse commune, la caisse commune de tous les musulmans. Et lui, il avait en plus des projets de guerre, donc il lui fallait de l'argent pour financer cette campagne militaire qu'il s'apprête à mener contre les tribus qui ont contesté son autorité. Donc je crois que cette question de la pauvreté, Abou Bakr l'aurait utilisée comme argument si elle était vraiment sérieuse. Oui.
Revenons maintenant à la malédiction proprement dite, proférée. Il y a deux temps, il y a un temps à la mosquée, en présence aussi des fidèles. Et puis le temps où il est allé lui rendre visite, et elle lui dit « je te maudis dans chacune de mes prières ». Et lui, essayant d'être magnanime, il lui dit « mais moi je te bénis dans chacune de mes prières ».
Oui, c'est un échange, à mon avis, on atteint vraiment des sommets et c'est pas une scène que j'invente, hein. Je l'ai reconstituée à partir des fragments de récits que j'ai trouvés dans la tradition. Abou Bakr, évidemment, après cette malédiction proférée à la mosquée, va vivre un événement.
Une véritable imprécation, un discours imprécatoire.
C'était d'ailleurs, tout le monde a ressenti cela comme une sorte d'expression de la colère de Dieu. Abou Bakr en est devenu malade, il a représenté sa démission, et il y a un événement personnel. Et c'est là où on voit quand même le parallèle avec la vie du prophète, puisque le prophète a commencé à abandonner, à se laisser aller, quand il a perdu son fils. Ibrahim. Et Abou Bakr al-Siddiq, quelques semaines après la mort du prophète et après cette altercation avec Fatima, perd son fils, Abdallah. Et il sent que la malédiction commence à se réaliser. Il prend l'initiative d'aller chez Fatima, qui était souffrante, il veut absolument se réconcilier avec elle. Et elle, elle refuse même de lui adresser la parole.
Même de le regarder.
Elle regarde le mur. Et ce n'est qu'en quittant sa maison, et elle lui dit « Je te maudirai, Abou Bakr, dans chacune de mes prières. » Et il lui effondré, il s'est effondré juste après. Il lui a dit « Moi, je te bénirai dans chacune de mes prières. » Et c'est une la sentence, parce que c'est comme un verdict prononcé par Fatima, va pousser Abou Bakr à vivre le califat comme un fardeau dont il va essayer de se décharger en faisant la guerre. C'est un peu une explication psychologique que j'avance comme une hypothèse personnelle, c'est-à-dire que sa décision de faire la guerre à quasiment l'Arabie entière, c'est vraiment pour comme une fuite en avant pour essayer d'échapper à cette destinée funeste. D'ailleurs, dès les premiers instants de son élection, et on le voit dans la scène de la prestation d'allégeance publique, il avait eu beaucoup, beaucoup d'hésitations.
Il ne voulait même pas monter sur la chaire.
Oui, c'est Omar qui le pousse.
Parce qu'il voyait même
le fantôme.
J'allais dire l'image, la figure.
Moi, j'utilisais ce terme-là, mais ça, c'est vraiment, il faut que le lecteur sache que cette stylisation, qui n'est pas de l'ordre de la fictionalisation, cette stylisation des scènes cruciales dans ce récit des premiers jours après la mort du prophète, c'est une manière de souligner l'intensité dramatique de la chose pour dire qu'en fait, ces hommes et ces femmes ont vécu ce moment décisif de l'histoire de l'islam comme une véritable tragédie.
Au sens grec du terme,
c'est la malédiction des Atrides, Fatima c'est Antigone, donc vraiment on est dans un truc universel, dans un schéma universel où les drames personnels entrent en collision avec la raison d'État et ça crée forcément des scènes tragiques. Donc je disais que Abou Bakr ne s'est jamais en fait senti serein avec ce califat puisque, et ça on le trouve pratiquement dans tous les textes de la tradition sunnite, hein, pourtant très favorable au premier calife, où à la fin de sa vie, à l'article de la mort, il fait ses confidences à sa fille et à sa fille lui dit « Jamais, j'aurais jamais dû accepter ce poste ». Et il a aussi des regrets par rapport au traitement qu'il a réservé à certaines personnes au lendemain de son arrivée au pouvoir, notamment quand il a décidé de brûler vif Al-Fujaa. Mais ça, je vais en parler dans le prochain tome.
Voilà, vous tenez tout le monde en haleine. Fatima mourra à l'âge, en gros, de 29 ans. On n'est pas tout à fait sûr, c'est entre 24 et 29 ans. Donc, une jeune femme. Ça empoisonnera tout le reste du califat d'Abou Bakr. Ces guerres dites d'apostasie ou contre le fait d'avoir abjuré l'islam en réalité, parce que quelques-uns, non seulement avaient divinisé ou déifié le prophète, étaient déçus de le voir mourir comme un simple mortel, et d'autres parce qu'ils ne voulaient pas payer la zakat, l'aumône légale, l'impôt, ce qui est un précédent pour criminaliser l'apostasie en contexte islamique.
C'est un délit politique, l'apostasie.
Et c'est devenu un délit politique dont il faudrait savoir s'en affranchir maintenant. Nous arrivons vraiment au terme de l'émission. Merci infiniment, Hala Wardi.
Merci.
Chers amis auditeurs, vous trouverez toutes les références des musiques et des livres, et du livre particulièrement, La déchirure de Hala Wardi, sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son est assurée aujourd'hui par Manuel Couturier. La réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.